Moi, je prends un peu du Mouchmaï au Cachin oriental. J'ai réussi totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai essayé de le convoquer au Cachin oriental. Je pense qu'en combinant les deux, ben, je suis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter Parole aux auditeurs qui reçoit ce mercredi 20 juillet 2011 l'hospitalité de la province orientale dans la série des émissions consacrées au bilan des institutions provinciales. La province orientale est située au nord-est du pays. Elle est limitée par la République centrafricaine et le Soudan au nord, les provinces du Nord Kivu, du Maniema et du Kasaï oriental au sud, l'Ouganda à l'est et la province de l'Équateur à l'ouest. Avec une superficie de 503 239 km², selon les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté des CRP 2005, la province orientale a une population de près de 8 292 000 habitants, occupant une ville, 6 communes, 4 districts, 24 territoires et près de 198 secteurs et chefferies. De l'agriculture à la pêche, en passant par l'exploitation minière, forestière et les voies de communication, la province orientale possède plusieurs potentialités économiques pouvant assurer son développement. Notons que depuis le début de cette législature, la province est dirigée par M. Médard Aoutiaï Atenga comme gouverneur et Ismaël Arama qui la régent comme vice-gouverneur après la démission de Joseph Mangakia. Et l'Assemblée provinciale est dirigée pour le moment par M. Philippe Matikini. Quel bilan faites-vous de vos institutions provinciales? Nous avons en ligne de Kisangani M. Jean-Claude Essouka Alfani, porte-parole du gouvernement provincial et ministre en charge de l'agriculture, pêche et élevage. Sitting Poutou est à la réalisation de cette émission, assisté d'Ingrid Aïmba et Nicole Ndaka à la supervision. Et la mise en onde est assurée par Eric Sidiakala, Pierrot et la Mégie à la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs organise une série d'émissions sur les institutions provinciales. Chaque mercredi, à partir de la semaine du 9 mai 2011, l'émission Parole aux auditeurs se focalisera sur une province. Nous allons consacrer l'exclusivité des interventions aux auditeurs habitant la province concernée. Quel bilan faites-vous de vos institutions provinciales? Parole aux auditeurs, prenez la parole et nous vous écoutons.
Vous êtes à Kisangani, à Wamba Wakia, vous êtes à Dungu, vous êtes à Faradi, vous êtes à Isiro, vous êtes à Bunia, vous êtes à Nikiri, partout, sur l'ensemble de la province orientale. Nous sommes chez vous pour cette émission spéciale. Vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits. On a au moins 40, plus de 40 personnes, je crois bien, qui se sont déjà inscrits. Peut-être qu'on ne saura pas vous faire passer tous, mais vous êtes très nombreux à vouloir intervenir dans cette émission. Comme je le disais, nous avons invité et pour vous, Monsieur Jean-Claude Essouka Alfani, qui est porte-parole du gouvernement provincial et ministre en charge de l'agriculture, pêche et élevage. Monsieur le ministre, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Nous allons vous garder tout au long de cette émission de partage et d'échange avec les auditeurs habitant la province orientale. Vous allez garder la ligne le temps que nous puissions écouter les auditeurs. Ce sont eux qui vont soit vous poser des questions par rapport à les préoccupations ou soit ils ont des points de vue à émettre sur le travail, sur l'ensemble des problèmes qui les préoccupent en province orientale. Nous allons leur donner la parole, le temps que vous puissiez les écouter et revenir pour commenter leur point de vue ou soit répondre à leurs questions. Je rappelle à nos auditeurs, ceux qui voudraient bien intervenir, qu'ils peuvent le faire aussi par l'adresse électronique pa@radiocapu.net, mais aussi au 081-890-69-69. Vous pouvez intervenir pour donner votre point de vue ou soit poser la question par rapport au bilan de la gestion de la province orientale.
Parole aux auditeurs organise une série d'émissions sur les institutions provinciales. Chaque mercredi, à partir de la semaine du 9 mai 2011, l'émission Parole aux auditeurs se focalisera sur une province. Nous allons consacrer l'exclusivité des interventions aux auditeurs habitant la province concernée. Quel bilan faites-vous de vos institutions provinciales? Parole aux auditeurs, tenez la parole et nous vous écoutons.
Voilà, nous avons un message de Jean-Claude qui nous a écrit d'Issiro qui dit ceci. Plusieurs tronçons routiers en province orientale ont été réhabilités soit par la MONUSCO, soit par les ONG internationales, ou soit par les entreprises qui exploitent le secteur de l'or. Pour lui, le gouvernement provincial n'a pas déployé beaucoup d'efforts pour la réhabilitation des routes dans l'ensemble de la province orientale. Monsieur Jean-Claude Iska, vous avez la parole pour commenter ce point de vue de l'auditeur qui nous a écrit de Bounia. En attendant, ceux qui vont être sur les antennes en direct, s'il vous plaît, nous pourrons d'abord prendre Alpha Keta Dungu. Monsieur le ministre, gardez la ligne. Nous prenons un auditeur qui est déjà sur les antennes pour compléter celui qui venait de nous écrire. Alpha, vous êtes à Dungu en province orientale. Bonjour.
Bonjour.
Alpha, nous allons vous dire ce qu'on va communiquer à tous les auditeurs, c'est d'être plus précis, concis et aller tout droit au but pour dire ce que vous pouvez dire et libérer la place aux autres parce que vous êtes très nombreux. Et il faut aussi arrêter votre poste récepteur. On vous écoute par rapport au bilan de la gestion de la province orientale.
Ok, merci pour m'accorder la parole. J'aimerais intervenir dans le sens que le gouvernement provincial à mon niveau on a donne un bilan négatif, à ce sens que les tronçons routiers Isiro Dungu n'est pas réhabilité, il n'a pas un soutien dans ce sens. Il y a aussi la sécurité de présumer les rails qui bat encore et encore sur l'axe Dungu Saradj.
Voilà, on vous a suivi, Alpha. Vous avez dit pour vous, la préoccupation, c'est le tronçon routier ici au Dungu qui n'a pas été réhabilité et l'insécurité sur l'axe Dungu-Faradi. Merci de votre préoccupation. À partir de Dungu en province orientale, nous sommes à Isiro avec Winston. Vous êtes en ligne, Winston. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, bon, moi, je voudrais dire...
On a un problème de ligne, on a perdu Winston d'Isiro. Cela nous permet de donner la parole à notre invité, M. Jean-Claude Iska. Vous avez suivi un intervenant qui est à Dungu. Pour lui, il pense que le travail que vous avez fait est négatif parce qu'on n'a pas réhabilité les tronçons ici au Dungu et la sécurité sur l'axe Dungu-Faradi. Mais à cela s'ajoute aussi cette inquiétude des auditeurs de Bounia qui pensent que beaucoup de tronçons aussi ont été réhabilités. Ce n'est pas les efforts d'autres partenaires, mais pas par le gouvernement provincial. On vous écoute.
Ok, merci. J'ai compris que les préoccupations de ces premiers auditeurs se trouvent orientées vers les infrastructures routières, mais également la sécurité. Il y a toujours un problème en rapport avec la conférence des compétences entre les provinces et le pouvoir central. Il y a la Constitution qui a essayé de préciser les compétences entre ces deux niveaux, n'est-ce pas, des gestions de notre pays. Généralement, lorsqu'il s'agit de la question de sécurité, la question de sécurité et de la défense, généralement, ça échappe, n'est-ce pas, à la province. Et la question de LRA, je veux dire que le gouvernement de la République, avec le SRDC, essaie quand même de faire quelque chose, parce que lorsqu'on voit l'ampleur de ce phénomène de LRA, cette ampleur est en train quand même de diminuer progressivement au fil du temps. Dire qu'aujourd'hui, le phénomène est LRA, c'est fait avec la même acuité qu'au début, je crois que c'est pas vrai. En rapport avec les infrastructures routières, les amis qui sont à Isiro, ils doivent comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, le gouvernement de la République est en train de se vertuer de manière à pouvoir réhabiliter la route Niagna-Isiro, de manière à pouvoir désenclaver cette partie de notre province. Donc les routes qui ont été citées, ce sont des routes soit d'intérêt national ou soit d'intérêt provincial. Et généralement, ces routes-là sont de la compétence du pouvoir central. Et en ce qui nous concerne, nous, le gouvernement provincial, notre compétence se limite aux routes, aux voies de recettes agricoles. Et à ce niveau-là, moi je crois que les auditeurs ne peuvent pas dire que dans ces districts, nous n'avons pas fait quelque chose. Moi, nous avons des statistiques en rapport avec les travaux qui ont été réalisés dans le cadre des voies de recettes agricoles. Je vais citer par exemple pour le cas des Haut-Ouillé. Nous avons eu à ouvrir et à ensoleiller environ 195 km de route de recettes agricoles dans cette partie
de notre territoire.
Voilà. Jusque là, c'est bon. On continue parce que les préoccupations tiennent compte, en fait, de vos réponses tiennent aussi compte des préoccupations des auditeurs. Hein. Ce sont eux qui vont poser des questions et nous allons cheminer ensemble. Nous avons à Bounia, Serge, qui est en ligne. Bonjour, Serge.
Oui, bonjour, M. Pierrot.
On vous écoute, Serge.
Oui, merci beaucoup, Pierrot. Je crois que s'il faut un peu voir le diagnostic de la province orientale, ce qu'on dira, je crois que c'est, à mon avis, un village qui s'est mitigé. Je viens d'attendre du fait qu'il est en train de parler du point de vue de certains agricoles, donc en général, c'est en société routière. Je crois que s'il faut se baser par rapport à cet aspect ou par rapport à ce domaine-là, à ce niveau-là, les villages restent encore problématiques, d'autant plus que je vous assure, M. Pierrot, de l'autre côté, vers Mali, pour faire Aluar, il faut passer par Ouganda. Il y a une contrée qu'on appelle Katanga. Il y a aussi une contrée vers Goli et Medi. Il faut traverser parce que si vous vous empruntez à bord d'un véhicule qui est à tournage élevé, vous ne serez pas à même de passer par ces consolations. C'est comme ça que vous serez à mesure de passer par Ouganda. Donc, M. Pierrot, du point de vue infrastructure, il y a encore des efforts à mener, d'autant plus que vous savez qu'aujourd'hui, grâce à ce secteur-là, routier, bien sûr, il y a encore des effets d'environnement qui pourraient se faire ressentir du point de vue de périphérique, du point de vue des centres de consommation, même sur la banque. Je crois que le DILA, s'il faut que je ne sais pas, je vous focalise à ce secteur-là, le DILA reste encore problématique, d'autant plus que les efforts sont encore aujourd'hui, il faut que les efforts soient encore mieux pour que nous puissions encore ressentir des effets pendants ou des effets positifs pour que aujourd'hui le DILA de la province orientale, à mon avis, puisse être satisfaisant.
Voilà. Vous avez dit, Serge, que s'il faut se baser sur les cas des infrastructures, cela veut dire qu'il y a d'autres domaines qui intéressent la vie de la population, qui peut-être touchent à votre vie directement, ou soit vous êtes limité uniquement au secteur des infrastructures.
Bon, il y a évidemment, il y a d'autres secteurs, notamment le secteur de l'économie. Et là, je crois que M. Pierrot, il faut tout simplement voir que cette difficulté-là, cette difficulté qui est aujourd'hui dessous de la terre, tant que on se référait à cette grande théorie du célèbre économiste de la terre, qui a dit qu'aujourd'hui, soit de quoi qu'il dépend, donc, il y a ce système-là, n'est-ce pas, de l'impôt sans le pot. Donc, même si on est en train de payer, de percevoir certaines taxes, nous ne voyons pas de pouvoir, parce qu'il y a des seules façons de prélever, même la partie là qui est exercée au niveau des trésors publics. Donc, le secteur économique est encore aujourd'hui avec un bénéfice négatif. Mais je crois qu'il faut justement repenser encore les systèmes, et moi, voire même les hommes qui sont animés dans les systèmes aujourd'hui, tout particulièrement dans la province
orientale. Merci Serge. Au-delà de la route Emadi à Riwara, vous êtes plein de multiplier des taxes hein, par rapport aux opérateurs économiques. Merci. Nous rentrons au chef-lieu de la province, à Kisangani. Justin, vous êtes en ligne. Bonjour.
Oui, ok. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Justin.
Ok, merci. C'est super. Voilà. Mon intervention sur le poids de la législative de la province orientale, je voulais intervenir sur le plan et sur le poids de cette activité, donc la route et aussi le transport de personnes et de leurs biens. En ce qui concerne le transport, le gouvernement provincial a beaucoup privilégié les voyages de transport étrangers. Ils ont oublié les initiatives locales, donc les agences de transport locales. Ils sont beaucoup privilégiés. Les agences de transport étrangères, notamment Blind Coach, une agence de voyage de Soudanais, il y a une autre fille, Horizon Coach, le nom m'oublie. Donc c'est pour cela que je suis demandé à ce qu'au lieu d'importer les agences de transport d'ailleurs, il fallait que le gouvernement appuie d'abord les agences de transport qui sont sur place à Kisangani, au lieu de faire appel aux agences de l'étranger. En plus, en ce qui concerne les tronçons Nyanya Isiro, le gouvernement avait déjà tout prévu pour que les travaux s'effectuent. Mais à un certain moment, c'est vrai, ils avaient commencé les travaux. À un certain moment, encore, ils ont arrêté ces travaux. Je ne sais pas si c'est comme ça. Pendant que tout était déjà donné, le carburant, les tracteurs, bénéfice de l'île, c'est qu'il y a des plans, mais c'est dommage. Il y a des temps, je ne sais pas pourquoi. Donc, je me demande si c'est question de mal organisation ou c'est question de temps seulement de la volonté.
C'est
pas mis vraiment
des grands intérêts. Oui, merci beaucoup, Justin. Vous avez posé des problèmes. Vous pensez que le gouvernement provincial a beaucoup plus privilégié les agences de transport étrangères et encouragé les initiatives locales. Pourquoi cela? Vous dites que les travaux de réhabilitation de la route d'ici Rognagna sont aux arrêts. Pour quelles raisons? Alors que tout était déjà disponibilisé. Merci beaucoup, Justin de Kisangani, pour ce point de vue. Nous allons à Mahagi encore. On rentre à Mahagi. Je crois qu'on y était déjà, mais cette fois-ci, c'est à Mahagi avec Paulin. Paulin, vous êtes en ligne. Bonjour.
C'est Romain. Pardon, ça c'est Romain. C'est nous qui appelons.
Paulin, Romain, vous êtes à Mahagi?
Oui, je suis à Mahagi.
Ah voilà, il y a tellement beaucoup d'auditeurs que c'est possible qu'on confronte les noms. Voilà, c'est Romain au lieu de Paulin. On vous écoute.
Bon, moi, en tout cas, je devais tous réagir de telle manière que le gouvernement provincial de ma province orientale, en tout cas, je ne vois pas son accès ici sur mon territoire. Qu'est-ce qui compétit sera? Il y a en premier lieu le gouvernement qui devait s'équiper d'abord du courant électrique, qui soit le premier facteur, donc le facteur primordial même pour le développement. Mais je ne vois aucun signe du gouvernement ici à Mahagi, et il n'y a même aucune promesse qui pourra peut-être nous mettre un peu. Donc, pour que nous puissions avoir d'abord à l'idée qu'un jour nous puissions devenir quelques-uns. Mais mon territoire, vraiment. Et encore, pour le deuxième volet, je voulais juste te parler de personnes distribuées. Donc, c'était passé à l'idée hier, mais permettez-moi de parler de ça un peu aujourd'hui. En tout cas, les tracteurs distribués ici à Mahagi, je ne sais pas si peut-être on a distribué ça pour quelle classe. Je voudrais que
les
puissent me répondre un peu de ça.
Voilà.
On a distribué pour quelle classe sociale? Est-ce que c'est pour les nobles? Puisque maintenant, nous sommes locataires d'abord les engins. C'est vraiment un prix là élevé, de telle manière qu'un paysan ne peut pas avoir des moyens suffisants pour des carburants pour peut-être travailler.
Romain, vous dites qu'il y a un prix élevé pour avoir un tracteur en fait, pour l'agriculture. C'est combien élevé, ça fait, c'est combien d'argent qu'on demande aux paysans?
Bon, c'est pas moins de 80 dollars.
Merci, merci beaucoup Romain de Mahagi. Nous rentrons à Kisangani. Non, nous sommes à Ouattia avec Jeda. Jeda, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, c'est Jeda Likumumba, c'est Chali.
Vous êtes à Ouattia, on vous écoute.
Oui, pour moi ici, en province orientale, précisément à Ouattia, je vois les bilans négatifs. Pourquoi? Il y a les sécurités qui persistent à Ouattia, il y a des réfugiés par-ci par-là qui ne sont pas assistés. Et la route ici au Ouattia est impraticable. Vraiment, je vous dirais qu'il n'y a pas moyen, même en moto, vous allez faire plus de 7 jours pour arriver à ici. Je ne sais pas si c'est ce que le gouvernement provincial vise. Et ici, l'infrastructure scolaire, les écoles ici à Ouattia ne sont même pas réhabilitées. Je ne sais pas si le gouvernement a vraiment pitié des élèves, parce que les élèves qui sont dans des salles en état de délabrement total, il y a moi-même, s'il vous plaît, il y aura des accidents et il y aura des morts, pas mal.
Merci.
Je ne sais pas si l'invité qui est là aussi, Dieu peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement provincial prévoit pour le territoire de Ouattia.
Merci.
Et le territoire de Ouattia est un territoire qui fournit beaucoup de matières premières. Nous pouvons dire que le territoire de Ouattia est le premier territoire à offrir l'or en Afrique. Mais venez voir sur terrain qu'est-ce que c'est que ce territoire de Ouattia, sans même de routes ni de transports. Et le destruction paraît ainsi que bien uniquement pour louer des maisons. Il n'y a pas de construction ici à Ouattia construite par des fonds propres du gouvernement provincial.
Merci beaucoup, Jeda. Nous terminons avec Jean-Claude qui est à Mahagi. On va donner la parole à notre invité pour répondre à ces quatre auditeurs. Jean-Claude, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Et nous rentrons à Mahadi. On était déjà tout à l'heure avec Romain. On vous écoute aussi.
Oui, je suis du territoire Mahadi. Ma préoccupation est la suivante. Donc, nous avons suivi avec beaucoup de regrets vraiment le bilan des institutions, des institutions provinciales ici dans notre territoire de Mahadi et négatif. Compte tenu de notre route qui va de Mahadi Port jusqu'à Kisangani, et ainsi de suite. Alors, vraiment, si nous tenons compte de notre lac Albert, vraiment, ce lac-là, avec des tranchants-là, le plus comestible. Et puis, dans le chien temps, on transportait le tranchant du lac Albert jusqu'à Kisangani, même jusqu'à Kinshasa. Alors, aujourd'hui, si vous arrivez ici, vous voyez le cas de route de ce lac-là. Alors, c'est vraiment impraticable. Nous ne savons pas si ce genre-là peut changer à aménager cette route-là. Deuxièmement, nous souffrons beaucoup par manque d'eau potable. Ici, nous ne savons pas si vraiment ce genre-là il peut changer quand même à arranger les sources d'eau potable pour la population du territoire de Mahadi.
Merci,
voilà. Nous ne savons pas un jour, comme nous voyons déjà, les jours du point presque protéiniques et que vraiment ces gens ils auront toujours gagné de la population du territoire de Mahadi. Alors il ne peut pas beaucoup continuer si l'invité pourra nous éclaircir sur la situation vraiment regrettable.
Merci beaucoup Jean-Claude. Cela nous permet de pouvoir donner la parole à notre invité pour commenter ses points de vue ou soit répondre à ces questions des auditeurs après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Jean-Claude Dessouka, vous avez suivi notre ami Justin qui est à Kisangani. Il dit que le gouvernement provincial n'a pas encouragé les initiatives locales hein, en ce qui concerne les agences de transport sur place et à Kisangani. Il s'inquiète de l'arrêt des travaux de la route Nyanya-Isiro. Romain de Mahadi a posé la question de savoir, il n'a pas vu la visibilité du gouvernement provincial à Mahadi parce qu'ils n'ont pas vu le projet par rapport à l'électricité. Mais il pose une question, c'est ce qui a été évoqué dans l'émission d'hier sur la distribution des tracteurs hein, par rapport à l'agriculture. Comment ces tracteurs ont-ils été distribués? Et à Ouattia, il y a un problème de l'insécurité. On est revenu davantage hein, sur les routes, mais une particularité, c'est par rapport aux écoles. Le gouvernement provincial n'a pas réalisé les écoles à Ouattia. Et notre ami Dema est revenu encore sur le problème de la route. Mais il vous pose la question aussi sur les projets en ce qui concerne l'accès à l'eau potable. On vous écoute.
Oui, merci. Je remercie de nouveau les auditeurs qui ont bien voulu intervenir de manière à pouvoir donner leur point de vue sur le bilan du gouvernement provincial. Je vais vite répondre aux préoccupations soulevées d'abord par l'auditeur Justin Kisangani. Moi, je crois que nous devons faire la part des choses. Le gouvernement provincial n'a pas empêché les opérateurs économiques de la province orientale à pouvoir créer des agences de transport pour dire que le gouvernement provincial n'a favorisé, n'a privilégié que les agences étrangères. Ça, c'est totalement faux. Et je ne sais pas si notre ami a des cas précis où le gouvernement provincial a refusé de donner des autorisations à ces agences d'origine nationale. Je crois que ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, je vais lui dire qu'il y a l'agence Eligoum qui est en train de balayer l'Itouri, c'est une agence de transport. Nous avons les enfants d'abord du Nord Kivu qui est en train de livrer ici jusqu'à dans la province orientale. Et je crois qu'il a pris juste un exemple, et là il coach. Nous n'avons pas seulement cette agence-là, nous avons plusieurs agences. Et que je ne crois pas que son allégation-là soit vérifiée, vérifiable, parce que nous avons bel et bien des agences de nationaux qui sont en train d'opérer ici et qui déferlent en tout cas la province orientale dans le domaine des transports. En rapport avec l'arrêt des travaux de réhabilitation de la route Nyanya-Isiro, là aussi, je crois que c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que déjà le vice-premier ministre, la semaine passée, a été là pour essayer d'inspecter les images de son passé. Donc les travaux sont en train d'évoluer au niveau de cette route-là. En tout cas, les travaux ne sont pas arrêtés. Les travaux continuent, les travaux se poursuivent sur cette route de Nana Tiziro. Les amis, notre ami, les Ouakia, il estime qu'il n'y a pas de traces de notre gouvernement.
Il y a Amagi, d'abord. Amagi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, je crois qu'il y a Amagi,
Ouakia. Amagi, Ouakia, oui, voilà.
Oui, il y a Amagi, Ouakia. Alors, je ne sais pas si il habite dans quel contrée de Ouakia. Ici, je ne voudrais pas faire de la fiction. Je veux lui dire que le gouvernement provincial a conçu et réhabilité l'Institut Gombari, l'école primaire Minimoto, il y a le centre de santé Kibari, ça c'est dans les territoires de Ouakia. S'il habite à Ouakia, qui fait l'enseigne. On va lui dire qu'effectivement, c'est le gouvernement provincial qui a financé sur son propre tout ce projet en rapport avec la construction et la réhabilitation de ces infrastructures scolaires et sanitaires dans ce territoire de Ouakia. En rapport avec nos amis de Mahagi, là aussi, Romain dit qu'il ne voit pas les actions du gouvernement provincial au niveau du territoire de Mahagi. Je m'interroge aussi s'il habite quel coin de
oui,
ce territoire
que...
de Mahagi, parce que je vais lui dire justement, je vais lui dire que en rapport avec, par exemple, le secteur de
l'électricité, oui, il a parlé de l'électricité
dans le territoire.
Il a parlé aussi de l'électricité.
Oui, dans le territoire de Mahagi, la construction du centre de santé Ougourou, soit Ougourou, le centre de santé Ougourou, donc ça c'est fait par le gouvernement provincial, la réhabilitation du centre de santé de référence de Kamala, ça c'est le gouvernement central qui a fait ça. Et je vais aussi essayer de vous donner quelques exemples par rapport avec le secteur de l'éducation, toujours dans le territoire de Mahagi. Le gouvernement provincial a construit l'école primaire Ara. Le gouvernement provincial a également construit l'Institut Koussou. Ça, c'est dans le territoire de Mahagi. Quand il dit qu'il n'y a pas de traces du gouvernement provincial dans ce territoire, je ne sais pas s'il est dans quel territoire de Mahagi, mais ce qui est vrai, le territoire de Mahagi peut être vaste, il y a beaucoup de chefferies. C'est possible que là où il est, il n'a pas vu un projet de gouvernement provincial, mais je voudrais lui rassurer que le gouvernement provincial a réalisé quelques actions dans le secteur de l'éducation, voire dans le secteur de la santé, dans le territoire de Mahagi.
Oui.
Concernant la question
de la distribution des tracteurs,
à la distribution des tracteurs, et voilà, quel a été le schéma, quelle a été la méthodologie. Les tracteurs ont été mis à la disposition de la population à travers les conseils agricoles et ruraux de gestion. Les conseils agricoles et ruraux de gestion, ce sont des nouvelles institutions qui ont été mises en place par le ministère de l'Agriculture en vue de cogiter de manière à pouvoir trouver des solutions sur toute la problématique du développement du milieu rural au niveau de nos entités. Et la composition de ces conseils-là, c'est 2/3 des membres qui proviennent de la société civile et 1/3 de l'État. Et c'est ces conseils-là qui gèrent les tracteurs. C'est-à-dire que les personnes qui ont besoin d'utiliser les tracteurs s'adressent donc aux cages. Évidemment, c'est moyennant paiement de quelque chose. Parce que ces tracteurs sont mis plutôt à location. Le prix qu'il a avancé, c'est possible parce que le coût de location d'un tracteur, le coût horaire, est d'environ 16 000 francs par heure. Et pour pouvoir labourer un hectare, le tracteur met autour de 3 heures. Et quand vous prenez 16 000, vous multipliez par 3, on est autour de 48 000 francs. Pour pouvoir labourer un hectare. Et lorsqu'on essaie de faire une étude comparative entre les coûts, n'est-ce pas, du labour mécanisé par rapport au labour manuel, je crois que les coûts investis pour le labour mécanisé est de loin inférieur par rapport au labour manuel. Donc les tracteurs sont là, ils sont mis à la disposition de la population, on n'a pas donné ça aux individus. Mais c'est vrai que ça demande évidemment des moyens parce qu'il faut assurer la maintenance de ce tracteur, l'entretien, la réparation et l'amortissement. Donc c'est normal qu'on puisse demander quelque chose. C'est vrai qu'il est possible que les revenus de la population ne sont pas mis. Voilà. Voilà, les paquets sont là, ils sont disponibles et ils sont mis à la disposition de tout le monde, pas seulement des gens qui ont beaucoup de moyens.
Voilà, il y a Fabien qui nous appelle Barou et Kassambali Tabounia. L'autre ami Jean-Claude de Mahagui avait posé aussi la question de savoir ce que le gouvernement provincial pense faire à Mahagui pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Il a même donné l'exemple des sources aménagées. Qu'est-ce que vous pensez de cela avant qu'on écoute d'autres auditeurs?
Oui. Je crois que voilà, le gouvernement provincial venait déjà d'acquérir des équipements de forage provenant du gouvernement de la République. Il y a le service national d'hydraulique rurale qui est déjà à l'œuvre. Il y a le ministre provincial d'ailleurs du développement rural qui gère donc ce service-là. Il est présentement à Bounia. Elle est allée, c'est une dame bien sûr, elle est allée voir la possibilité de commencer déjà à déployer ces équipements de forage au niveau des différents territoires en vue de commencer. N'est pas à forer les puits d'eau au bénéfice de la population. Voilà.
On vous écoute, on vous garde en ligne, monsieur le ministre, le temps d'écouter aussi d'autres auditeurs. Nous avons Fabien qui est à Arou, Kassamba et à Bounia. Vous allez avoir la parole, monsieur, et cette fois pour essayer d'aller au-delà de ce que les autres ont déjà dit par rapport au milieu, là où vous vivez, vos préoccupations et les problèmes qui vous préoccupent, ainsi que le travail accompli par les institutions provinciales.
Parole aux auditeurs.
Fabien, vous êtes en ligne des Arou en province orientale, bien sûr. Bonjour Fabien.
Bonjour Monsieur Thibault.
On vous écoute. Au-delà de ce que les autres ont déjà évoqué, quelle est votre préoccupation, votre jugement par rapport au travail accompli par les institutions provinciales jusqu'en ce moment que nous sommes sur les antennes?
Oui, Monsieur Thibault, je suis désolé de vous annoncer que c'est avec une grande déception que j'attends la réaction du ministre provincial qui est. Je pense qu'on peut parler effectivement de ce qu'il y en a un. Effectivement, implique un travail en amont en termes des objectifs à court, moyen et long terme dont les rapports seront l'objet de ce débat. Et c'est tout ce que votre rapport est.
Oui, Fabien, vous savez, vous sortez entre coupés. Fabien, vous sortez entre coupés.
Si vous pouvez. Un rapport du gouvernement provincial de l'an 2009-2010, faisant état des 166 km de route de déchets agricoles réalisés par l'État. Et nous qui sommes en territoire des Arou n'avons jamais vu pour cela. Et ce rapport a été validé même par les élites de la province au niveau de Kitanel. Ça, je voudrais qu'ils nous donnent de plus amples renseignements là-dessus. En deuxième lieu, nous avons un problème avec l'exécutif en soi. L'exécutif, à la personne du gouvernement, déclare partout là où il passe qu'il est là pour accomplir, pour réaliser l'ambition du chef de l'État, celui de le faire passer aux prochaines élections et non pas de réhabiliter, de construire la province, parce que 36 gouverneurs sont passés devant lui et n'ont absolument rien fait. En ce qui concerne les sources d'aménagement de sources d'eau en territoire d'Arou, le gouvernement provincial n'a pas un bilan à nous donner. En ce qui concerne l'emploi, je ne sais pas si c'est encore avancé un seul argument en ce qui concerne l'emploi dans ces territoires. Pour ce qui est de l'emploi, c'est parce qu'on continue à l'affaire ma source. Moi-même, j'ai été locataire de cette action. J'ai déboursé $180 pour un hectare. Alors, je me demande ces chiffres qui nous ont produit. Ce sont des chiffres qu'on verra de son bureau ou des chiffres qui sont retirés sur le terrain. Et pour clôturer ce bureau, je voudrais faire état de certaines insuffisances que le gouvernement provincial est en train de présenter au niveau de la base. Aujourd'hui, il y a un déficit communicationnel entre la population et ce gouvernement provincial. À la fin des six, nous avions beaucoup de respect. Et aujourd'hui, nous l'avons carrément perdu.
Je vous donnerai un exemple. On a un problème, malheureusement, on a un problème avec vous, Fabien. On ne parvient pas vraiment à suivre clairement ce que vous dites. C'est un problème de liaison téléphonique, on n'en peut rien vraiment. Mais on a quand même essayé, par beaucoup d'efforts, de retenir quelque chose dans ce que vous avez dit. Alors, vous avez dit que le gouvernement provincial avait présenté en 2009-2010 un bilan de réhabilitation de routes dans les territoires d'Arou, des 166 km de routes des déchets agricoles, mais vous dites que vous n'aurez pas cela sur place à Arou. Mais vous avez aussi dit que sur les plans de l'eau, aménagement des sources d'eau, il n'y a pas de bilan, l'emploi, il n'y a pas à dire, mais par rapport aux tracteurs, vous réfutez les propos du ministre en disant que vous-même vous avez loué ces tracteurs à $180 américains pour faire un hectare. Mais le reste, on ne sait pas continuer parce que la qualité n'est pas très très bien sur les antennes. Merci beaucoup de cet effort, Fabien, des Arou. vous. Nous allons à Bounia. Kassamba est en ligne. Bonjour Kassamba. Kassamba, vous êtes en ligne. Bonjour. On a perdu Kassamba. Il est temps que la réalisation puisse les récupérer. Nous revenons à vous, monsieur Jean-Claude Essouka. C'est auditeur. Je crois que Kassamba, c'est bon. Kassamba est en ligne. Je crois qu'il y a un autre auditeur en ligne. On va voir si ça va. Voilà. Nous allons à Isiro avec Désiré. Le temps que Kassamba puisse arranger sa ligne. Désiré, bonjour. Vous êtes en ligne.
Oui, bonjour, monsieur Pierrot et la musique.
Donc, vous êtes à Isiro. On vous écoute d'une manière brève et rapide par rapport à la province, en fait, au gouvernement provincial. Ce que vous pensez de cela chez vous, à Isiro.
Oui, monsieur Pierrot, je salue d'abord l'invité. J'ai deux petites questions à lui poser.
Allez-y.
Qu'est-ce que l'exécutif provincial pèse à tout comme nous présenter comme bilan sur les plans de développement et constructif. Jusqu'à l'année 2006, le président de la République avait lancé les 5 chantiers pour changer le Congo dans 5 ans. Et jusque-là, ici à Isiro, il n'y a aucun chantier qui est comme réalisé. C'est ça la première question.
Pour être plus concret, par exemple, à Isiro, votre préoccupation, c'est sur base de quoi? Vous parlez de quoi? Des écoles, de la santé? Vous parlez de quoi concrètement, là où vous êtes? Qu'est-ce que vous présentez comme situation concrète pour qu'on puisse avoir un peu des idées claires et évoluer?
Oui. En tout cas, la priorité, la priorité pour la ville d'Isiro, c'est d'abord la réception de la route Nyanya-Isiro. Puisque c'est ça la priorité de tout le monde. Et directement, sur le plan scolaire, il n'y a aussi l'école qui a été moins encore réhabilitée. C'est ce qui a tout comme aussi, c'est notre découragement. D'autant plus qu'on a un gouvernement provincial responsable, il devrait quand même répondre aux besoins de la population.
Merci Désiré, c'est pas mal.
La deuxième question.
Oui, allez-y.
Oui, monsieur Pierrot, je me demande, ici dans la province orientale, il y a des recettes vraiment considérables avec ce que le gouverneur a créé comme la DRCO. Et nous, la population, nous posons la question, où part toutes ces recettes que les agents ramassent par-ci, par-là, et il y a des multiplicités de taxes. Et, en tout cas, la province orientale ne devrait pas souffrir, d'autant plus que Il y a beaucoup d'argent.
Voilà, on vous a suivi, c'est bien, on vous a suivi. Nous le disons aussi pour les autres auditeurs, hein, quand vous êtes sur les antennes, posez la question directement, allez tout droit au but, hein, présentez la situation d'une manière concrète pour permettre à l'invité de vous répondre aussi concrètement. Si vous parlez dans la généralité, nous risquons de rester aussi dans la généralité, ça ne peut pas vous aider. Allez-y tout droit au but, posez les problèmes tels qu'ils se présentent pour permettre à l'invité de pouvoir bien vous répondre. Merci Désiré, vous êtes revenu sur la route Nyanya Isiro, vous avez dit qu'à Isiro, il n'y a pas eu d'école réhabilitée ni construite, mais aussi où vont les recettes de la DRPO, avec, il y a aussi beaucoup de multiplicité des taxes. Merci beaucoup. Nous rentrons à Kisangani, Polydor, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, Polydor.
Oui, concernant les sujets que vous nous avez parlé sur la gestion de la province orientale, nous déplorons d'une chose que nous sommes en train de constater précisément dans la ville d'Ixanani. Si nous savons, si nous avons bien regardé dans la ville d'Ixanani, nous voyons que le mandat qu'avait réussi notre gouvernement provincial, normalement, nous ne sommes pas à mesure de les évaluer. Parce que, pour moi, j'aimerais plus s'assurer pour ce qui concerne l'exécutif de la ville d'Ixanani. Et avec les infrastructures de notre morgue ici, qui sont sur Patrick Sanani. Donc, nous voyons que c'est comme si le gouvernement provincial, ne fonctionne pas comme il faut. Ne fonctionne pas comme il faut. Prenons le cas ici du crash qui était survenu ici avec Sanani. Vraiment, notre gouvernement, je m'excuse pour le monde, nous a fait plus de honte dans le sens que il fallait attendre le gouvernement central puisse arriver ici pour que ces s'est accidenté puisse être soigné donc d'un système qui est acceptable pour les soins. Alors cela nous a plus étonné. Pendant des cas comme le cas qui est arrivé ici, nous sommes à quelques mètres de la mort de la ville de Xanani. Et nous avons vu le corps fuir sur place par manque de rectification. Alors, je demanderai à votre invité du jour, il peut nous dire à ce jour, est-ce que dans ces statistiques, il connaît au moins combien de quartiers de la ville de Xanani et dans les Noirs? Et qu'est-ce qui manque dans notre province pour que tous ces quartiers-là puissent aussi être éclairés et arranger même notre tribunal central? Ça, c'est la première question que je demanderai à notre invité. PDD, pour que la mort puisse être en marche, il faut que le gouvernement central puisse intervenir dans le sens que ces morgues ne passent tout simplement pour les gens qui viennent à accélérer, comme nous avons vu avec les classes, mais nous-mêmes, même sur place de la ville d'Extrémie, nous utilisons cette morgue. Pourquoi le gouvernement provincial ne pouvait pas prendre les choses au sérieux? Pourquoi alors que la province orientale a beaucoup de moyens, beaucoup d'argent qu'elle-même savent comment ils utilisent ça? C'est ce que je profite au moins de dire, de demander moi ces questions-là. À l'invité du jour, de nous parler un peu. Est-ce que le gouvernement provincial n'a pas de moyens pour arranger de quelque chose comme la mort, notre morgue de la ville d'Xanani?
Voilà, merci.
Nous avons ce
merci, monsieur le journaliste. Mais allez-y rapidement, vous avez déjà parlé de la mort aussi,
vous avez la demandé, demandé les formes de l'éducation.
Mais vous avez déjà parlé
Nous avons l'hôpital ici, comme les cliniques universitaires. C'est notre hôpital qui nous aide beaucoup. Mais l'hôpital est là le jour même que les blessés étaient venus, on soignait les blessés avec des torches. Par masse d'électrification. Alors, ça nous a plus, ça ne nous arrangeait pas. Nous ne devons toujours pas parler du gouvernement provincial et à parler des autorités, mais nous devons suivre leur gestion. Leur gestion aussi n'est pas vraiment rentable, comme nous devons pouvoir le dire.
Merci, Polydor de Kisangani. Vous avez parlé de la situation de la morgue de la ville de Kisangani. Pourquoi cette morgue a des difficultés pour fonctionner? Il n'y a pas d'électricité. L'électricité aussi aux cliniques universitaires et d'autres quartiers de la ville de Kisangani. C'est vraiment l'essentiel de ce que vous avez posé comme préoccupation à notre invité. Nous rentrons à Arou avec Koutou qui est en ligne. Bonjour Koutou.
Bonjour Radio Kapi, bonjour l'invité.
Nous avons déjà eu Fabien qui nous a appelé de Koutou, qui a parlé de l'eau, qui a parlé de l'emploi, qui a parlé des routes et des sites agricoles. Au-delà de ce qu'il lui a dit, qu'est-ce que vous aussi vous avez comme autre préoccupation par rapport au travail accompli par le gouvernement provincial?
Oui, en tout cas, moi je vais démentir après ce que mon frère de Arou a dit, je suis précisément à Arouara. Oui, pour notre territoire, le gouvernement de premier mandat nous avait parlé de routes, l'eau et courant. Le gouvernement provincial lui-même est au moins si dans tout ce qu'il a réalisé. Nous voyons seulement, on nous a réhabilité la route Arou à Riwara, qui est déjà maintenant au-delà des sols qui étaient d'auparavant. Les courants, aujourd'hui les poteaux qui sont fixés, on nous avait promis les courants de 2010, et bien voilà, aujourd'hui nous sommes à 2011, et les barrages qu'on devait nous construire sur Njoro. Aujourd'hui, on a entretenu les affaires. En tout cas, mon frère, sans mentir, que le bilan est au-delà de l'au-delà du négatif. Et aussi, je m'en vais ajouter quelque chose sur notre. C'est qu'un auditeur a parlé de DRPO. On est en train, nous avons les barrières qui sont érigées, qui deviennent des tracasseries concernant la DRPO. On ne sait pas. Les fonds qu'on est en train de percevoir sur DRPO, quoi, je ne sais pas si notre invité peut nous éclaircir à partir de cela. Sinon, parler des emplois, parce que quand on travaille les routes, l'eau, le courage, et de suite, alors c'est tout ce qu'affaire qui va créer des emplois. Moi, je le vois, aucune chose n'est travaillée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des emplois, il y a des chômeurs, donc les autres travaillent maintenant dans des carrières publiques, dans des carrières de l'État. En tout cas, je vois, il n'y a rien.
Voilà, merci. Écoute, de Arou, si on peut retenir au-delà de ce que Fabien avait dit, vous êtes revenu sur la DRPO, vous posez la question de savoir où vont les recettes de la RPO qui peuvent permettre à ce que la province puisse travailler, mais vous êtes aussi plein des barrières érigées par les agents de la DRPO. Nous allons terminer avec Antoine Debafoua-Sendé pour revenir à notre invité. Antoine, vous êtes en ligne?
Bonjour.
Vous êtes à Bafoua-Sendé, c'est ça?
Ok, peut-être pour préoccupation. Je voudrais un peu demander à notre invité là-bas, est-ce que le cabinet du gouverneur peut-être composé pour des condamnés de personnes? Parce que là, il y a 59 sécurités. Parce que l'article 30 dit ceci, il faut au minimum 10 membres. Mmh. En plus, qui est habilité à désaffecter intérêt public? Parce qu'aujourd'hui, on voit au cette mécanisation, on est en train de construire pendant que les tracteurs de l'État sont arrêtés, c'est pas l'hôtel que le gouvernement a chantier. C'est vraiment déplorable. Et puis, le métier qui nous disait, on a, le gouvernement provincial avait remis à chaque député provincial de l'argent pour de l'expression territoire. Où en sommes-nous avec cet argent? Donc, le cabinet, vraiment, donc, le pouvoir a très mal récupéré la présence.
Merci beaucoup. Merci, Antoine. Vous, Christian, vous êtes à Condromont, gardez la ligne, on va revenir à vous. Le temps de permettre à l'invité de pouvoir répondre à toutes ses préoccupations, on va revenir à vous. Christian de Condromont, gardez la ligne.
Parole aux auditeurs.
Oui, monsieur Jean-Claude Bissoutan, nous allons revenir à vous parce qu'il y a encore des préoccupations. Des fois, les unes et les autres, elles sont différentes de celles proposées par les premiers groupes d'auditeurs. Il y a, par exemple, cette situation de la DRPO, la Direction des Recettes Provinciales du Pensilien, cette agence qui s'occupe des recettes provinciales. Les gens voudraient savoir l'argent va où, parce qu'il y a les taxes que la population paye, c'est l'État posé à Isiro, posé aussi par notre ami des Harou. Mais les amis des Harou disent qu'ils n'ont pas vu vraiment les routes qui ont été à 106 km de haut des serres agricoles des Harou, dont vous aviez parlé, je ne sais pas, par rapport à ce qu'il a bien dit dans une des émissions sur Radio Capi. Il dit qu'ils n'ont pas vu cela. Où vont les recettes de la DRPO? À Kisangani, l'ami revient sur son inquiétude par rapport à ce qu'ils ont vu après les crashs. Il n'y avait pas de courant à la morgue de Kisangani. Qu'est-ce qui manque au gouvernement provincial pour alimenter cette morgue et aussi les cliniques universitaires? Et enfin, Antoine pose la question de savoir, pour lui, il pense qu'il y a un personnel pléthorique, n'est-ce pas, dans les cabinets du gouverneur des provinces, et aussi, l'argent qui a été remis aux députés provinciaux pour les routes et les sites agricoles, où est parti cet argent, qu'est-ce que cela est devenu? Ces préoccupations sont un peu différentes des autres déjà posées par rapport à la globalité sur les routes.
Oui, merci. Mmh. Ok, je vais essayer de ramasser les préoccupations de nos deux amis d'Aou. Fabien et Koutou. En rapport avec ces préoccupations, surtout concernant le fonctionnement de la DRPO et la destination des recettes, mais la DRPO, c'est ça la régie financière de la province. La perception qui se fait, la destination, c'est au niveau du budget de la province orientale. Et avec cet argent-là, le gouvernement provincial arrive à réaliser certaines actions. Et je suis surpris que ce soit les amis d'Harou qui puissent se poser cette question-là, parce que je vais déjà un peu essayer de dire à nos amis-là que l'école primaire Pete Yobou, la plus belle école de la cité d'Harou, cette école-là a été réhabilitée par le gouvernement provincial. J'insiste et je pèse des mots, la plus belle école n'est pas pour le moment à Harou, qui est entré, qui est au cœur du chef-lieu de ce territoire, c'est le gouvernement provincial. L'institut Papa Kenéa, c'est le gouvernement provincial qui a construit, et le gouverneur de province vient, la semaine passée, d'inaugurer le centre de santé à Aou, le centre de santé Coléa, le centre de santé à Diridio, ça c'est sur fonds propres du gouvernement provincial, c'est à Aou. Et l'argent de la DRPO, ça aide justement le gouvernement provincial à pouvoir réaliser certaines actions en rapport avec les objectifs qu'il s'est assigné au niveau de son programme. Et concernant la réhabilitation des voies de secteur agricole, bien sûr, dans notre rapport, nous avons dit que pour le territoire d'Harou, avant que la route Harou jusqu'à Imbokolo ne soit réhabilitée aujourd'hui, avant cela, il y avait des travaux en 2008, il y avait des travaux manuels qui avaient été effectués avec le financement du gouvernement provincial. Et l'entreprise ou l'ONG qui avait gagné ce marché-là, c'est l'ONG Décidi, qui se trouve à Harou là-bas. Je crois qu'il est question que les amis étaient les voir. Donc c'est 90 km qui avaient été réhabilités à ce moment-là donc par les travaux manuels, donc la haute intensité de la mise en œuvre. Alors, concernant la préoccupation sur l'électricité, et c'est vrai qu'il y a un projet de l'électrification du territoire d'Arou, il y a les poteaux qui ont été installés avec des câbles, il reste le lancement de l'électrification du territoire d'Arou. Arou doit se sentir d'ailleurs, heureux parce qu'il y a ce projet-là en rapport avec l'électrification, il reste seulement le lancement, parce qu'on a déjà tout installé.
Alors, voilà. Oui, revenons rapidement, oui, notre élu Tandani, oui. Ici, oui.
Oui, notre ami Dijiro, qui dit qu'il n'y a pas d'école, tout ça, à Dijiro. Mais je veux lui dire que Dijiro, c'est le chef-lieu du district du Haut-Kouélé. Je veux lui dire ça. Et sur place, à Dijiro, là-bas, l'école primaire Dijiro Moké a été réhabilitée sur fond propre du gouvernement provincial. Et je vais essayer de l'aider à comprendre qu'il n'y a pas seulement Iro qui est le district du Haut-Kouélé. Au niveau de l'ensemble du district du Haut-Kouélé, nous avons mené un certain nombre d'actions sur le plan de l'éducation et comme sur le plan de la santé. Je vais l'aider à comprendre cela. Et même, je vais essayer de lui citer quelques-unes de ces actions-là au niveau du district du Haut-Kouélé. Dans le territoire de Dungu, la réhabilitation de l'Institut Ndolomo. Territoire de Farage, la construction de la cité Kama, la réhabilitation de la cité technique commerciale et administrative d'Aba. Dans le territoire de Rungu, la construction de l'école primaire Iziro Moké. Dans le territoire de Wacha, la réhabilitation de l'Institut Gombari, la réhabilitation de l'école primaire Minemoto. Dans la cité d'Iziro sur place là, le gouvernement provincial a acquis pour l'université de Rouélé un bâtiment. Et les travaux en rapport avec la réhabilitation de l'ISP Iziro, donc ces travaux devront commencer. Et il en est le même dans le secteur de la santé où le gouvernement provincial a réhabilité et construit certains centres de santé dans tous les territoires du district du Haut-Kouélé. Et que lui, il est à Iziro,
monsieur
le président de ce district.
Monsieur Jean-Claude,
concernant.
Oui, allons-y rapidement parce qu'on a deux auditeurs en ligne et nous avons un bulletin d'information que nous allons suivre ensemble pour revenir la dernière partie qui va conduire à la conclusion. Et si vous pouvez aussi combiner, répondre à Polydor de Kisangani et Antoine rapidement, comme ça on écoute les deux derniers, qu'on puisse avancer avec les bulletins d'information et puis on va revenir à vous.
Oui, la question que notre ami Polydor de Kisangani a posée concernant le fonctionnement, la mort du parti, on a constaté un désagrément lors du crash. D'abord, je voudrais lui dire que les accidentés du crash, en tout cas, l'air soit, on n'a pas attendu seulement que le gouvernement de la République intervienne. Et parce que le crash est intervenu un certain vendredi, et la délégation du gouvernement de la République n'est arrivée que le samedi, et c'était déjà la prise en charge a commencé le même vendredi au niveau de nos hôpitaux. Il faut qu'il pose la question au directeur des cliniques universitaires, au médecin directeur des cliniques universitaires. Cette soirée-là, le gouvernement provincial avait débloqué une enveloppe importante pour que cette institution puisse se procurer le minimum nécessaire pour que cette institution sanitaire arrive déjà à prendre en charge ces accidentés.
Concernant
la mort, voilà. Nous avons regretté, évidemment, même ces jours-là, il n'y avait pas d'électricité aussi bien au pays universitaire comme à l'hôpital général de référence de Matisso, et ça nous avait surpris désagréablement. Nous avions interpellé le directeur de la SNEL qui nous avait dit qu'il y avait plutôt une panne, et parce que c'était la nuit, il était très très difficile que la SNEL puisse intervenir pour pouvoir arriver à décanter cette situation-là, parce qu'il s'agissait d'une panne suprême, et le lendemain, je crois que l'électricité avait été rétablie au niveau de ces deux institutions. Concernant le fonctionnement à la morgue aussi, le gouvernement provincial, lorsqu'il avait reçu le rapport que la morgue ne fonctionnait pas, c'était avant le cash, et avait débloqué même une enveloppe par rapport avec le fonctionnement de cette morgue-là, pour que rapidement on puisse la réhabiliter. Mais il se pose plutôt
un problème à rapport avec donc le moteur qui est là, qui ne supporte pas la charge.
Voilà.
Alors nous
répondons. Pour permettre de gagner le temps, répondez peut-être en 30 secondes, hein, parce qu'on ne saura pas aller au-delà de ça, permettre à un auditeur d'intervenir, vous gardez et vous allez répondre après. Notre ami Antoine Debafoisende a dit que le cabinet du gouverneur a un personnel pléthorique, mais aussi l'argent remis aux députés provinciaux pour les routes et les services agricoles. Un peu rapidement, dans 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Non. Moi, je crois qu'on n'avait jamais remis l'argent aux députés provinciaux. On a remis plutôt l'argent aux structures, à certains instituts, à certaines amplitudes. Il est possible que certains députés provinciaux puissent avoir leurs ONG qui avaient soumissionné et gagné les marchés en rapport avec la réhabilitation de l'essai agricole. On n'a pas remis l'argent aux députés comme individus, mais on a plutôt remis moyennant évidemment la passation des marchés, parce que la procédure avait été respectée. Concernant l'effectif pléthorique au niveau du cabinet du gouverneur, moi je ne crois pas à ça.
Voilà.
Je ne crois pas à ça.
Okay.
Je crois que nous sommes des légalistes. Nous nous efforçons de manière à pouvoir respecter toutes les dispositions légales en rapport avec la composition, l'effectif du personnel au niveau de mon cabinet.
Gardez la ligne, monsieur le ministre, on va revenir à vous. Le temps d'écouter rapidement Christian qui attend au moins. Christian, vous êtes en ligne, bonjour. Christian, vous êtes en ligne, bonjour Christian.
Je suis en ligne.
Oui, Christian, on a pour vous 30 secondes, désolé, parce qu'on va écouter un bulletin d'information tout à l'heure. En bref, on vous écoute.
Bon, je suis seulement à informer le porte-parole du gouvernement provincial que l'été des Jiba, dont l'Assemblée provinciale avait mis le nom dans le budget provincial, n'a pas été construite. Jusqu'aujourd'hui, venez voir, l'été Jiba. Les gens se demandent où est parti le fonds de cette école. Il y a EPGA aussi qui est réhabilité par AAA, mais dont on ne voit pas, on n'a pas vu la trace du gouvernement provincial. Parce qu'il y a encore autre école primaire là-bas.
Merci, Christian, merci pour vous. Mais désolé, Étienne, vous êtes à Ariwara, gardez la ligne, hein, vous allez intervenir juste après les bulletins d'information. Désolé que vous ne pouvez pas avoir assez de temps pour le moment. Nous avons aussi beaucoup de messages que nous avons reçus, que nous allons lire après les bulletins d'information, que nous écoutons ensemble avec M. Jean-Claude Essouka, et on va se retrouver après pour la deuxième partie. Voilà, nous disons merci pour ce station pro de Radio Capi. Nous revenons pour la deuxième et dernière partie de Parole aux auditeurs consacrée aujourd'hui à la gestion de la province orientale. Monsieur Jean-Claude Essouka, vous êtes avec nous encore en ligne?
Tout à fait.
Voilà, je vais vous lire quelques messages que nous avons reçus des auditeurs. Hein. Il est temps d'écouter les deux derniers auditeurs de cette émission et vous remettre la parole pour la réponse et aussi la conclusion. Il y a Jean Banano de Kisangani qui a écrit une très 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 longue lettre, mais nous allons prendre l'essentiel de ce qu'il a dit. Il y a du courant à Kisangani, mais dans d'autres quartiers, il y a des cabines de la SNEL qui ont des transformateurs et disjoncteurs brûlés et la population est dans les noirs, mais la population est dans les noirs. Mais il dit ceci, l'argent, pour lui, l'argent récolté par la DRPO est apporté chez le gouverneur, cet argent est géré chez le gouverneur, et il pose la question de savoir pourquoi les agents de la DRPO sont-ils impayés il y a plusieurs mois. Patrick Kébébouni a aussi un très long message. Il dit ceci, les routes sont inexistantes, l'eau, l'électricité, l'enseignement, il y a beaucoup de problèmes pour lui. Il revient aux 5 chantiers qu'il pense que les 5 chantiers sont en train de dormir. Pour lui, il dit qu'il y a le gouvernement provincial utilise beaucoup d'influence sur l'Assemblée provinciale. Quand il y a une motion, il y a les trafics d'influence et l'Assemblée provinciale n'est pas en mesure de punir le gouvernement provincial. Au Viti qui est à Arou dit ceci, le bilan est négatif. Par exemple, il n'y a pas moyen d'atteindre les territoires d'Arou, dont le gouverneur est originaire à partir de Bounia, chef de district de Litouri. Les usagers sont obligés de faire les passer par l'Ouganda. Le tronçon Ariwara-Kengezi-Base est non réhabilité. Il y a un problème d'électrification du chef lié. On avait lancé les travaux, on avait lancé les projets, mais malheureusement, cela n'a pas marché. Michel Bagnot, la province orientale, a un bilan négatif des 5 chantiers pour lui. Il dit ceci, sur le plan des infrastructures, le gouverneur Les gouverneurs, l'ensemble du gouvernement provincial, ils font beaucoup de voyages à l'extérieur du pays et ils ne font pas de voyages à l'intérieur pour voir ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de retard en ce qui concerne les paiements des agents qui travaillent dans les structures du gouvernement provincial. Et puis, un auditeur de Kisangani qui dit ceci, qui a gardé l'anonymat, qui dit pour lui, la province est gérée comme un bien sans maître. Le gouvernement provincial, tous, et les gouverneurs, ils ne restent pas 30 jours au bureau. Ils voyagent beaucoup plus, 70 voyages en Ituri. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a beaucoup d'activités économiques. Alexis Abunda de Dongo dit ceci, pour la province orientale, la route Aro-Watia est réhabilitée par Kibali Gold, route Dongo-Faradji réhabilitée par la MONUSCO, route Kikironesu réhabilitée avant par les gouvernements issus de 2006. Pour lui, dans le haut où il est, le gouvernement provincial n'a pas pu réhabiliter des routes. Il donne l'exemple de Dongo Isiro, Dongo Bungadi, Isiro Poko, Isiro Mungubere. Et enfin, Alex Abdul Debou a dit ceci, il n'y a plus de fort hein, pour diriger la province. On s'achète des belles maisons, des voitures. On s'achète des belles maisons, on se construit. On s'achète des belles voitures, on construit des grandes maisons, mais on ne s'occupe pas des problèmes réels de la population. On va revenir aux deux derniers auditeurs de cette émission pour terminer. Guillaume est à ma. Guillaume, bonjour.
Bonjour, Pierre.
On vous écoute rapidement et en bref, Guillaume, votre point de vue.
Ok, mon point de vue est suivant. Quand monsieur l'auditeur n'a pas posé de questions aux auditeurs, moi je veux dire. En tout cas, il faut avoir une bonne foi pour dire une chose réelle. En tout cas, le bilan pour moi est très positif. Car le gouvernement de la province orientale a répondu positivement à ce qu'on attendait à elle par une politique d'une politique publique, c'est-à-dire l'identification des problèmes réels de la population, la délimitation exacte des problèmes à s'attendre au cours de 5 ans, l'évaluation, la durée, la clôture. Donc, le territoire de Mali a enregistré plusieurs nouvelles uniformes de la part du gouvernement provincial, c'est-à-dire plusieurs belles écoles de qualité ont été construites, plusieurs hôpitaux de qualité, plusieurs marchés ont été dits. Mais ma question est la vaccine. Je vais poser aux évaluateurs de la province orientale. Pourquoi les évaluateurs de la province orientale viennent prendre la situation depuis 1960 jusqu'aujourd'hui, juillet 2011? Donc pourquoi beaucoup de ces évaluateurs n'ont pas le courage de se rendre ailleurs pour voir par exemple les actions faites? Ma dernière question. Pourquoi beaucoup de ces auditeurs de la province orientale, ils ont toujours une courte mémoire, ils n'arrivent pas à distinguer du fait qu'est-ce qui est de la compétence du gouvernement central et qu'est-ce qui est comme le gouvernement provincial et qu'est-ce qui est comme au niveau des districts et qu'est-ce qui est réservé au niveau des territoires. Donc nous sommes dans une nouvelle expérience, donc je peux tenir exemple, nous devons avoir le courage de solliciter ce qui sont faits, nous devons pas évoquer ce qui ne sont pas faits, nous devons dire ce qui ne sont faits.
Merci. Merci Guillaume. Enfin, on a eu quand même un auditeur qui a dit que le bilan est positif, hein, monsieur Jean-Claude Souka. Vous avez suivi les messages que nous avons lus. Bon, on est revenu presque sur les mêmes choses, mais il y a une question que moi aussi je veux vous poser. C'est par rapport à la communication entre l'exécutif provincial et la population. Je me rends compte qu'il y a des choses que vous dites, que vous avez faites sur terrain. Les gens disent que cela n'a pas été fait. N'y a-t-il pas là un déficit communicationnel entre le gouvernement provincial et la population pour que les gens comprennent ce que vous avez fait? Et enfin, les propos de Guillaume Demahagi, dans 3 minutes et demie, répondez à ses préoccupations, la question qu'il vous a posée, et pour ce terrain aussi, pour conclure cette émission hein, sur l'évaluation du travail du gouvernement provincial dans la province orientale. On vous écoute.
Oui, justement, il est possible, mais de toute façon, nous avons essayé de résoudre cette question-là, en essayant de tenir périodiquement des réunions des conseils des ministres au niveau des chefs-lieux des districts, de manière à pouvoir informer la population sur les réalisations du gouvernement provincial. Et ces réunions des conseils des ministres sont souvent sanctionnées par des comptes rendus et des communiqués et que nous organisons de manière à pouvoir les faire passer au niveau des différentes radios dans la province. C'est possible que les gens ne soient pas informés, mais ceux qui vivent réellement les milieux où ces actions sont en train d'être entreprises, je crois qu'ils savent que le gouvernement provincial est en train de travailler. Mais ce qui est vrai, vous avez commencé par donner la superficie avec les nombres d'habitants de la population de la province orientale. Avec 5 000 km², donc c'est une superficie qui est équivalente à celle de la France, avec beaucoup de défis en rapport avec les routes, en rapport avec l'éducation ainsi que la santé. Il est possible que les actions entreprises par le gouvernement provincial puissent être considérées aujourd'hui comme une goutte d'eau dans l'océan, étant donné de l'immensité de son territoire, et nous ne devons pas ignorer que nous avons hérité d'une province avec un tissu économique totalement délabré. Il n'y avait même pas d'infrastructure routière. C'est aujourd'hui que les infrastructures routières commencent à être réhabilitées. Et vous devez savoir qu'il y a un lien étroit entre les activités économiques avec les routes. À partir du moment où nous avons hérité d'une province qui n'avait pas de route, il était difficile à ce que les activités économiques soient redynamisées. Ce n'est que maintenant là, parce que les routes commencent, certaines routes ont été réhabilitées, c'est pourquoi les activités économiques ont pris l'essor, et parce que les activités économiques ont pris l'essor, et ces activités économiques commencent quand même à produire des recettes de manière à pouvoir enfuir la caisse du gouvernement provincial pour que le gouvernement provincial puisse disposer des moyens de sa politique de manière à lui permettre à pouvoir réaliser certaines actions. Nous sommes conscients que nous avons beaucoup de défis. Au cours d'un mandat, il est illusoire pour nous d'arriver à dire ici que nous sommes allés déterminer tous les problèmes, toute la problématique du développement de notre province. C'est utopique, c'est illusoire, c'est mensonger. Nous ne serons pas les dire maintenant, mais il faut du temps. Parce que, comme vous le savez, la province orientale était subdivisée en différentes républiquettes. Il y en avait beaucoup pendant la rébellion, c'est qu'il n'y avait plus tellement d'entreprises qui fonctionnaient convenablement au niveau de la province orientale pour pouvoir donner des moyens. Le secteur privé n'a pas pu faire son travail correctement. Parce que, donc, on peut développer un milieu que par les partenariats publics et privés. À partir du moment où le secteur privé était mis en difficulté de manière à pouvoir travailler correctement, il était difficile à ce qu'on puisse travailler, on puisse arriver à avoir des moyens pour réaliser des actions. Mais aujourd'hui, quand même, nous sentons que les choses commencent à marcher à partir de la réhabilitation des routes, et surtout d'intérêt national et provincial.
Merci, nous vous disons merci, monsieur Jean-Claude Essouka, d'avoir accepté notre invitation. J'ai rappelé à nos auditeurs que vous êtes le porte-parole du gouvernement provincial de la province orientale. Nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Allô ? Allô ? Allô ? Il ne répond pas ?
Nous disons également merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés à travers le monde et ceux qui nous ont appelés de la province orientale. Parole aux auditeurs, on vous retrouve demain, jeudi, pour un autre numéro. Vous savez que le lundi dernier, le ministère de la fonction publique a publié le rapport partiel sur les recensements biométriques des agents et fonctionnaires de l'État. Environ 370 000 fonctionnaires recensés dans cette province, à savoir Kinshasa, Bandundu, Bakongo, le Dekassa et le Maniema et le Sud-Kivu. La question pour l'émission de demain, pensez-vous que les résultats de ces rapports peuvent contribuer à l'amélioration des conditions salariales des agents et fonctionnaires de l'État en RDC? Soyez nombreux à vous inscrire à l'adresse pa@radiocapu.net. Merci à Titine Poutou et Ingrid Aimba qui m'ont aidé à réaliser cette émission, mise en onde par Héritier Sidiakala, Nicole Gaka l'a supervisé. Fidèles auditeurs, au revoir et portez-vous bien sur vous. Thank you.